premier épisode du dossier consacré à l'agriculture biologique. Et pour cela, je vous propose de poser les bases et de répondre à cette question qui peut sembler idiote. C'est quoi l'agriculture bio ? Mais est-ce si évident, même si on trouve des produits labellisés bio partout maintenant, savons-nous réellement ce qui se joue pour les agriculteurs et les agricultrices qui les produisent ? Et pour en parler, je reçois deux invités, Marion Cassagne, bonjour.
Bonjour, je suis chargée de mission au Gablec.
Exactement, on prendra le temps justement de parler du Gablec. Et Stefano, maraîcher à Chitney, la ferme de la Touche, bonjour.
Bonjour, voilà, je suis installé comme maraîcher en effet depuis une vingtaine d'années maintenant et on produit des légumes en circuit court.
Très bien. Alors, tout d'abord, on va poser une question qui est assez vaste mais qui est importante. Comment définissez-vous l'agriculture biologique ?
Alors l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui respecte l'environnement et le bien-être des animaux, qui respecte les hommes et les femmes. Et en fait, la particularité de cette agriculture, c'est qu'elle est labellisée, donc c'est-à-dire qu'elle est contrôlée et certifiée par des organismes certificateurs. Donc ça garantit aux consommateurs des pratiques.
Pour compléter les propos qu'il a dit d'être un peu moins formel, en fait, moi, ça me renvoie au moment où je me suis installé, quand je me suis dit le jour où je vais m'installer en agriculture. Et en fait, moi, je ne me suis pas posé la question agriculture bio ou pas agriculture bio. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds la même chose. En fait, je me suis tout simplement dit, moi, je vais cultiver des légumes comme si je le faisais pour ma propre famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où techniquement il n'y a pas d'impasse, on peut produire correctement des légumes de qualité sans utiliser d'intrants chimiques, pourquoi ne pas le faire ? Donc en fait, la démarche, il y a 20 ans, quand je me suis posé la question, en fait, je ne me la suis pas vraiment posée. C'était une évidence, en fait. L'agriculture bio, c'est simplement on respecte l'environnement, on respecte les gens, on respecte les gens avec qui on travaille également, et les consommateurs. Et c'était essayer de produire le plus proprement possible, comme je le ferais pour mes enfants, et voilà, tout simplement.
Et donc, quelque part, pour toi, Stéphane, c'est à la fois... ça reste quand même une éthique, on va dire, personnelle, mais qui s'inscrit dans un phénomène ou, dans tout cas, dans une réflexion plus large.
Oui, bah, tout à fait. Pour moi, c'était important de produire, donc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire avoir une production vertueuse et en même temps rejoindre l'économie d'un système. C'est-à-dire que pour être crédible, au effet, comme dans toute démarche professionnelle, il fallait que ça marche. Quand je dis que ça marche, il fallait réussir à générer de vrais revenus et de s'inscrire dans un vrai métier, voilà, ce soit sur les valeurs techniques tout comme sur les valeurs économiques.
Manon, du coup, est-ce que toi, tu voudrais compléter justement sur cette question de l'éthique, de grands principes fondateurs de la bio ?
Oui. Alors pour ça, j'ai toujours du mal à ne pas parler de l'histoire un peu de l'agriculture biologique. Et justement, en fait, il y avait... voilà, les personnes qui cultivaient sans intrants chimiques, etc., de base. Et après, il y a eu l'agriculture intensive. L'agriculture biologique, en fait, c'est né un peu en réponse à cette demande sociétale, justement, d'une agriculture intensive qui allait qui impactait l'environnement, les hommes et les femmes. Et en fait, il y a un peu on parlait d'agriculture bio à deux vitesses, mais ouais, il y a aussi deux choses dans la bio. C'est qu'il y a le côté concept un peu système... enjeux de société, concept, c'est l'agriculture biologique en lien avec la société, l'impact qu'elle a sur l'environnement et les humains. Et après, d'autre part, il y a le côté économique et technique. Et donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges et le label, on va réglementer, si vous voulez, la réglementation, elle s'est réduite à un cahier des charges qui va regarder des pratiques, donc c'est-à-dire d'utilisation d'intrants, etc. Mais en fait, dans les grands principes, les grands fondements, ça va beaucoup plus loin. C'est ce qu'expliquait Stéphane. Lui, il ne s'est pas posé la question. Pour lui, c'était respecter, produire des produits que lui-même pourrait consommer pour sa famille et qui a un impact positif sur la santé de son entourage.
Du coup, toi, Stéphane, tu as dit, tu as fait ce choix de l'agriculture biologique pour toi et d'un point de vue éthique, mais tu as quand même été dans la démarche de certification et de labellisation bio. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, justement, si quelque part cette démarche était, on va dire, militante et personnelle, en quoi elle ne suffit pas et pourquoi tu as choisi d'aller plus loin et d'aller vers la labellisation ?
Avant la labellisation, il y a eu aussi la formation. Mon parcours, c'était, pour reprendre cet exemple-là, c'était aussi une reconversion professionnelle. Donc avant tout, le premier pas, c'était de se former correctement, Et ensuite, c'est évident que pour être crédible aux yeux du grand public, il y a uniquement la certification bio qui prouve en effet ce mode de production. Aujourd'hui, c'est facile de dire, c'est ce qu'on trouve des fois, certains vendeurs sur les marchés, je mets pas de produit. Mais ça suffit pas, en fin de compte. La seule aujourd'hui certification valable, c'est la certification qui est dispensée par nos organismes de contrôle pour certifier d'une production biologique. Sinon, ce serait trop facile, quoi. Faut des garde-fous. Et c'est évident qu'aujourd'hui, c'est encore plus que jamais, c'est indispensable, en effet, cette certification.
Et en dehors justement de la légitimité auprès du public, c'est quoi l'intérêt, d'autres intérêts éventuellement à faire cette démarche de labellisation AB ?
Non, mais je pense que, il a un peu dit Stéphane, il y a le côté crédibilité, mais il y a aussi le fait que le label a permis d'avoir une visibilité auprès du grand public et aussi une crédibilité vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait des pratiques bio et qu'il n'y avait pas encore de label, on pouvait pas forcément dire oui, c'est vrai, ces pratiques sont contrôlées. Donc aujourd'hui, le label permet ce contrôle, donc des garanties et aussi une meilleure visibilité auprès du consommateur qui sait que voilà, la bio, ça veut dire ça, ça, ça.
Et il est bien évident que ces certifications, ces cahiers des charges, ça ne représente qu'un minimum, en effet, dans les pratiques qu'on peut réaliser. Parce qu'à l'intérieur de ce cadre, je dirais, réglementaire, on peut revenir à la bio à deux vitesses, c'est-à-dire que il y a certains, moi je vais parler du maraîchage que je connais bien, il y a certains maraîchers qui traitent même pas du tout. Dans notre cahier des charges, on a droit à certains produits, les éléments simples, le soufre par exemple, le cuivre, là, pour casser un peu des idées préconçues. On intervient sur nos cultures, hein. Ça ne marche pas tout seul non plus. On fait appel à des auxiliaires, on fait des lâchers d'insectes qui vont lutter contre les insectes prédateurs. On va utiliser des voiles. Enfin, on a tout un tas d'artifices et de techniques pour protéger nos cultures. Et ça fait partie des techniques, ça fait partie de nos savoir-faire. C'est pour ça que c'est important d'être formé, parce que techniquement, c'est plus difficile de produire en bio que de produire en conventionnel, parce que les artifices sont moins évidents. Je veux dire, quand il y a un problème en conventionnel, on va utiliser un produit et pof, la solution. On a tout de suite, je grossis le trait, mais on a tout de suite la solution. En bio, techniquement, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître son environnement, il faut suivre le climat, il faut suivre la plante, de façon à intervenir souvent par anticipation avant. Et ça nécessite un bon ressenti, et puis vraiment une bonne formation et être très pointu techniquement. Les choix variétaux également, des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Enfin bon, il y a plein d'aspects techniques à prendre en compte qui demandent un vrai savoir-faire.
Et en même temps, on sent dans votre discours, et c'est un discours que j'ai déjà entendu et qu'on va entendre dans l'émission consacrée à l'agriculture bio, tu parlais de bio à deux vitesses, un peu d'opportunisme. Est-ce que le label il perdrait pas aussi quand même un petit peu de sa crédibilité avec le fait qu'on le retrouve sur un tas de produits industriels transformés, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même là, à ce niveau-là?
Non, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le label, le cahier des charges correspond à un minimum. Après, je dirais qu'aujourd'hui, être consommateur, ça devient un métier, quoi, parce qu'il faut savoir décrypter les labels, il faut savoir comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, ce que j'encourage, en effet, les consommateurs, c'est d'aller voir plus loin que ça. C'est éventuellement, lors de visites de fermes, d'aller visiter dans les fermes, de discuter avec ces producteurs. En légumes, par exemple, les gens qui achètent des légumes directement sur le marché ou chez des agriculteurs bio, je pense qu'ils ont dans la tête un petit peu le jardin de leur grand-père. Et par rapport à ça, il ne faut pas les décevoir. C'est-à-dire, s'ils ont des doutes, il faut aller voir plus loin, il faut pousser les portes des fermes, il faut aller voir dans les fermes, il faut discuter avec les producteurs. Parce qu'en effet, dans le cahier des charges, je dirais l'élastique est tellement large entre les pratiques minimum, entre ceux qui ne vont pas du tout traiter, pas du tout intervenir, et ceux qui vont être en limite des fois du cahier des charges, parce que là, techniquement, je ne vais pas développer, mais on peut aller très loin quand même. Entre tout ça, il y a plusieurs niveaux de qualité, on va dire. Il y a les choix variétaux, il y a les techniques d'arrosage, parce que là, on parle des légumes uniquement du produit bio. La qualité se dessine aussi autrement. La qualité, c'est ramasser des légumes à une maturité optimum pour gagner en gustatif. C'est des choix variétaux aussi qui sont des fois plus sensibles aux maladies, mais au niveau gustatif qui sont meilleurs. Et souvent ça marche pas de pair. Souvent des légumes ou des fruits qui sont résistants, c'est souvent les mêmes qui sont aussi pas très bons entre guillemets. C'est pour ça que c'est pas si simple en fait. Et là, faut vraiment encore une fois. Les consommateurs, aujourd'hui, c'est un métier, quoi. Faut décrypter les cahiers des charges, décrypter les signes de qualité, et puis faut aller plus loin que ça. Voilà, faut aller dans les fermes pour ceux qui en ont la possibilité et se rendre compte comment ça se passe là-bas, quoi.
C'est vrai que le label bio, ça permet d'avoir un minimum de garantie, comme disait Stéphane, et après, il y a une marge de manœuvre. Il y a souvent des agriculteurs qui vont beaucoup plus loin que le cahier des charges. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même des dérives, même si c'est minimum. Enfin, je veux dire, en nombre de fermes, c'est minimum le nombre de dérives et de fermes qui vont voilà, aller au minimum ritrac du cahier des charges, raclé dans les recoins de la réglementation. Globalement, les personnes aujourd'hui qui sont en bio respectent le cahier des charges et ont une volonté d'aller plus loin parce que c'est dans leurs valeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question du label. Est-ce qu'il protège suffisamment? Est-ce qu'il garantit, par exemple, le côté éthique, le côté social? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de professions de la bio qui se posent ces questions-là. Donc, il y a la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, et aussi les Biocop, etc., tous ces organismes-là qui souhaiteraient, par exemple, revenir à un cahier des charges privé pour aller plus loin dans la bio. Donc, voilà, après, c'est compliqué parce qu'on a aussi des agriculteurs qui se convertissent tout juste au bio et qui disent « Oh, bah, on va encore plus loin, ça va devenir compliqué pour moi ». Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout ça à composer, c'est aller vers une bio plus et en même temps accompagner que les producteurs soient de plus en plus dans des pratiques vertueuses comme la bio.
Alors tu as dit deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, tu parlais du côté social de la bio. Qu'est-ce que ça veut dire, le côté social? Parce que là, du coup, on n'est pas du tout sur des questions agricoles, en fait. On est sur des questions humaines. En quoi l'agriculture biologique a un impact social?
Stéphane, tu peux illustrer déjà en maraîchage.
Ouais, mais je crois qu'on a tous un peu, hein, là on rentre en effet dans l'irrationnel et dans ce qu'on a en effet comme image derrière tout ça. Nous, pour parler concrètement, par exemple, sur la ferme, on a une toute petite ferme, on fait à peu près 2 hectares de légumes. Aujourd'hui, sur nos 2 hectares, on fait vivre environ 4 familles et on va nourrir à peu près entre, c'est un peu large, mais en équivalent famille, je pense qu'on permet de nourrir en alentour de entre 250 et 400 familles. C'est assez large que je dis, mais ça dépend de la grosseur des paniers et comment les gens mangent des légumes. Mais voilà. Donc, c'est là, si on peut rester un peu sur cette échelle-là, c'est-à-dire 2 hectares, on fait vivre 4 familles et on peut nourrir à peu près 300 à 400 familles derrière. On peut imaginer que, donc, si je dis ça, c'est qu'on est sur des systèmes avec une grande biodiversité. Grande biodiversité au niveau de. Dans notre environnement, mais aussi diversité au niveau des légumes. Alors, plus on a de légumes, moins on est spécifique, plus il y a de la main-d'œuvre derrière. C'est-à-dire qu'en gros, on peut difficilement mécaniser toutes ces cultures. Pour aller encore un peu plus loin, souvent le choix du terrain, on pourra avoir des terrains qui sont là, des légumes sont relativement autonomes et qui sont vigoureux, qui poussent bien, qui ont du goût. Souvent, on est sur des terrains un peu atypiques, c'est-à-dire on n'est pas sur des sables, par exemple. Pourquoi les légumes poussent majoritairement dans des sables? C'est pas parce qu'ils sont meilleurs dans les sables, c'est simplement pour mécaniser toutes les interventions, c'est-à-dire des interventions jusqu'à la récolte. Et puis de passer n'importe quand dans les salles, dans les sables, on peut passer, après une pluie, on peut passer, voilà. Donc c'est pour faciliter la mécanisation et les interventions liées à la production. Quand on a sur des terrains plus difficiles, avec plus d'argile, etc., c'est beaucoup mieux pour la qualité nutritionnelle et pour la qualité des légumes tout court, gustative, etc. Seulement, c'est beaucoup plus compliqué pour le maraîcher. Donc si derrière ça, je ramène l'impact humain et social, c'est-à-dire que sur nos fermes, en fin de compte, on a beaucoup d'interventions humaines, beaucoup de main-d'œuvre manuel, parce que justement, parce qu'on est peu spécialisé, parce qu'on a beaucoup de légumes différents, et la mécanisation est beaucoup plus difficile. Donc, il y a ce côté-là. L'autre, souvent, également en maraîchage, on va dire qu'on a souvent facteur de lien social. C'est lié aussi à la façon qu'on a de commercer, c'est-à-dire qu'on fait tous du circuit court, sous différentes façons. Ça va des AMAP aux ventes sur les marchés, aux ventes dans nos fermes, par le biais de magasins de producteurs ou d'autres formes de paniers. Donc tout ça, c'est facteur, en effet, ça génère beaucoup de liens sociaux, et je pense que souvent, ce sont des fermes aussi en zone périurbaine, dans les bassins de vie. Donc il y a de la vie souvent autour des fermes, les gens viennent visiter ou viennent juste faire un tour. Donc on est par exemple au cœur du village, c'est fréquent qu'il y ait des gens du village qui viennent faire le tour des jardins, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les externalités positives un peu de notre forme d'agriculture, c'est-à-dire tout ce qu'on peut amener en valeur. Souvent, on est aussi sensible à l'esthétique de notre jardin, donc on va planter on va mettre des mares. Voilà.
D'accord.
On peut retrouver une biodiversité sur le territoire en fait à travers notre activité de production.
Manon, est-ce que du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le maraîchage, est-ce qu'on peut l'extrapoler aux autres types de production agricole biologique, notamment la dimension de la main-d'œuvre?
Eh ben, alors là, ça va dépendre vraiment des productions. Et c'est vrai qu'en fait, là où on peut regarder le côté transversal de la ferme de Stéphane, c'est pour les fermes qui sont en circuit court. on va avoir un impact social, voilà, notamment le lien aux consommateurs. Mais c'est vrai qu'après, si on regarde les grandes cultures, ça va de suite être mécanisé, en fait. La main-d'œuvre à l'hectare, elle chute énormément. Après, par exemple, en viticulture, là, il peut y avoir plus de main-d'œuvre, donc saisonnière. Mais c'est vrai que le maraîchage, c'est quand même spécifique d'avoir une main-d'œuvre très, très forte. Les légumes plein champ aussi, donc c'est le maraîchage, mais à plus grande échelle. Par exemple, sur les oignons, vu qu'il n'y a pas de traitement, bah, ça va être du désherbage à la main, parce que c'est des cultures qui sont très fragiles, et là, ça demande énormément de main-d'œuvre. C'est vrai que le côté social en agriculture bio, c'est que ça va favoriser l'emploi, en fait, de personnes.
Non, mais il faut rejoindre le social. Alors, en effet, en fonction des systèmes dans lesquels on est, si on est sur des petits systèmes diversifiés, la main-d'œuvre va souvent être hyper locale, même des saisonniers qui sont fidélisés, ou de l'embauche même sur du temps plein, sur la main-d'œuvre permanente. Quand on est sur du légume de plein champ, là je parle toujours en bio, c'est-à-dire des systèmes qui sont plus importants, souvent là par contre on n'a pas du tout affaire à la même main-d'œuvre, c'est souvent de la main-d'œuvre qui vient des pays d'étrangers, entre autres parce qu'on a besoin. C'est des choix de production et souvent ça rejoint l'économie des systèmes. Nous, c'est vrai que dans nos systèmes, on est souvent moins sensible à l'économie. C'est-à-dire, quand je dis ça, je dis qu'en même temps, on a la volonté et on essaie d'agir pour que notre système soit économiquement pas déconnant. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à sortir des salaires corrects. Mais c'est pas une finalité en soi. On n'a pas les yeux rivés sur les chiffres en bas. On est avant tout sensible à la qualité vraiment de notre système dans sa globalité. Chose qui est peut-être différente, je ne vais pas dire de jugement de valeur là-dedans, mais c'est différent, je pense, sur les systèmes plus gros. On a plus une démarche technico-économique, c'est-à-dire une marge brute à l'hectare sur telle production, parce qu'on n'en fait que deux ou trois, par exemple. Et là, du coup, on est très sensible, forcément, la main-d'œuvre peut être parfois économique, ça peut représenter un peu économique super important. Donc, on va plus essayer d'optimiser cette main-d'œuvre-là en choisissant d'autres modes de main-d'œuvre que la main-d'œuvre plus locale, je dirais. Voilà. Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que les légumes, à la différence d'autres productions agricoles, ne sont pas commercialisés de la même façon et ne sont pas liés à des prix de marché, par exemple, on va dire plus globaux, plus au niveau national ou international. Est-ce qu'il y a un lien en fait? Est-ce que c'est pas décorrélé?
Ouais, alors là ça se complique. quand ils s'assont, moi j'ai essayé de ne pas être trop technique, mais. Avant, quand je dis avant, il y a encore quelques années, hein, en fait, notre profession, elle évolue, l'environnement professionnel évolue très très vite, en fait. Également sur les valeurs que tu dis là. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, on avait en gros les filières longues et les filières courtes. Les filières longues étaient dévolues à la vente par GMS, par centrale d'achat. En gros, ça passait par des revendeurs, par des grossistes, et après c'était redispatché. Et à côté de ça, il y avait vraiment les petits systèmes, alors gros systèmes. Filière longue, ça passe par des grossistes ou des centrales d'achat, etc. Et petit système, vente directe, directement au consommateur. Ça, c'était vrai, voilà, il y a encore quelques temps. Là maintenant, ça se complique dans le sens où là, il y a vraiment un croisement. C'est-à-dire que les grosses structures qui étaient sur les filières longues sont hyper tentées de rejoindre les circuits courts. Quand je dis ça, c'est que pour nous, c'est hyper dangereux parce que nous, on n'a pas de marge de manœuvre. Eux, pour faire des gains économiques, pour des raisons de diversification de leur système, maintenant ils sont tous tentés de faire une boutique à la ferme, de trouver d'autres réseaux à travers les AMAP. Maintenant il y a plein de systèmes pour commercer via les paniers par exemple, ou d'autres systèmes de vente par panier en effet, et ils sont énormément tentés de rejoindre ces systèmes-là pour gagner de l'économie sur leur système. Nous par contre, la marge de manœuvre est différente parce que nous on est lié au circuit court par définition parce qu'on a des prix de revient qui sont supérieurs et de toute façon pour sortir un revenu, on n'a pas le choix que de faire que ce circuit court-là. Par contre, si demain les deux filières se télescopent, filière longue et filière courte, il y a un grand danger pour nous, en effet, puisque de toute façon, nos coûts de production, on ne pourra pas faire mieux. Quoi. C'est-à-dire que là, on est au plus serré pour réussir à survivre dans notre contexte. Voilà. Donc, moi, je suis pas flippé par rapport à ce qui peut se passer pour l'avenir, mais ça peut vraiment se tendre assez rapidement, c'est ça. Sans compter que souvent les gros systèmes sont aidés par les aides de la PAC. Hein. Le système agricole, c'est un système qui est hyper subventionné de partout. On parle de l'Europe, mais aussi de la région et ou d'autres systèmes. Et nous, toutes ces aides-là, tout au moins la PAC, est liée à la surface. Donc souvent les systèmes légumiers, comme on parle, il y a souvent des céréales à côté ou d'autres systèmes agricoles. Donc les fermes bénéficient de ce système d'aide par la PAC qui vient en fin de compte aider la structure, l'ensemble de la structure agricole, hein, pas spécialement l'atelier maraîchage, mais l'autre. Nous qui sommes les ZPAC, on ne prétend pas, puisque on est souvent sur des surfaces très très réduites, entre 1 et 3 hectares, donc c'est ridicule. Or, moi je dis même depuis quelques... Enfin, on prend même pas le temps en fait souvent de faire les dossiers PAC parce que c'est ridicule l'aide qu'on va avoir, mais par contre là, il y a... J'aime pas ces mots-là, mais il y a une forme de distorsion de concurrence assez évidente, en effet, avec ce télescopage de filières qui peut arriver très sérieusement dans l'avenir. J'ai des idées, hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas un sujet qu'on va aborder là, parce que ça déporte, mais il y a des actions de développement de territoire, je pense aux PAT notamment, qui sont projets alimentaires territoriaux, hein, qui sont censés mettre un système vertueux autour de nos démarches alimentaires de production et de façon de consommer demain, qui pourraient peut-être être des arbitrages pour rééquilibrer en effet ces choses-là, si la volonté c'est de suivre l'envie sociétale d'aider les petits systèmes de production proches des bassins de production, des types vivriers tels que nous on vit aujourd'hui. Quoi. Mais là, par contre, il faut les aider sur cette partie, je pense, aide au temps de travail, à la main-d'œuvre nécessaire sur ces activités, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis rééquilibrer par rapport au gros système. Voilà, c'est une idée générale, mais je pense que ça pourrait être intéressant à développer. Ouais.
Moi, en tout cas, c'est des sujets qui m'intéressent de mon côté, que ce soit la PAC ou même le projet alimentaire territorial sur lesquels on est un petit peu informé, on a un petit peu les informations. On aura l'occasion d'en discuter parce que justement, c'est des questions qui sont à la fois très techniques, mais qui sont aussi du quotidien des gens. Parce que du coup, au final, on s'adresse quand même aux consommateurs. Et donc, quelque part, il faut voir un petit peu. Je pense que c'est des sujets qui méritent d'être traités quand même. Manon, par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport aux subventions, par rapport au. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que vient de dire Stéphane à l'instant sur l'économie, on va dire?
Bah, alors là, ça aurait été bien qu'il y ait Melaine ou même Claude Golando qui avait été interviewé la dernière fois parce que lui, en plus, il était. Parce que là, il entame sa retraite, mais jusqu'à présent, il était polyculteur éleveur. Donc là, il continue de faire des légumes de plein champ, notamment des courges. Il fait aussi des céréales. Donc dans sa rotation, voilà, il a ses légumes, ses céréales, etc., qui rentrent pour pouvoir à la fois avoir une diversité de cultures et de débouchés, mais aussi jouer sur. Les maladies qu'il va y avoir, si on rentre au côté technique peut-être tout à l'heure, l'intérêt de la rotation vis-à-vis des maladies, de l'enherbement, etc. Et c'est vrai que j'en ai parlé un tout petit peu suite à une discussion avec Stéphane. Pour l'instant, c'est vrai que moi, je ne vois pas forcément cette menace, parce que j'ai l'impression que les grands systèmes sont en filière longue et qu'ils ne vont pas s'embêter à aller vendre 3 patates sur un marché quand ils ont des gros volumes et qui sont avec des gros packaging. Mais c'est vrai que, par exemple, certains producteurs qui font en grosse quantité vont aller vendre une partie au maraîcher pour compléter leur gamme. Voilà, il y a des productions. Enfin, un maraîcher, plus il va diversifier, plus aussi c'est du temps de travail, ce que disait Stéphane tout à l'heure. Et après, c'est vrai que là où c'est très inégal, c'est qu'aujourd'hui, des systèmes en grande culture, mais là, c'est pas forcément qu'en bio, hein, ils sont favorisés par rapport aux autres, même par rapport aux éleveurs, etc. C'est qu'aujourd'hui, il y a, c'est à l'hectare la prime. Et en plus, on a des aides à l'investissement sur du matériel. Du coup, c'est tout bénef pour eux parce que c'est vrai que, par exemple, en maraîchage, il n'y a pas d'aide sur la main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, c'est très inégal aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'en bio, ça. C'est la PAC globale.
Oui, c'est un problème global de politique européenne, on va dire.
C'est vrai que c'est pas qu'en bio, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de petits systèmes qui sont en bio quand même, en fait. Et sur les projets d'installation aujourd'hui, parce que c'est un truc aussi important, c'est-à-dire comment l'agriculture va continuer à perdurer sur nos territoires. Les installations aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Des reprises d'exploitation, il n'y en a pas énormément. Par contre, il y a énormément de création d'activités, encore une fois, en maraîchage, et c'est essentiellement et uniquement, j'allais dire, en maraîchage d'eau sur des petites structures. C'est un truc qui se passe, c'est une évolution qui se passe sur tout le territoire national, hein, dans notre département. Et pour donner la... Tu m'arrêtes là si je me trompe, mais il me semble que nous, quand on s'est installé, dans les années 2000, c'est en 97 exactement, on était 2-3 maraîchers sur nos petites structures, c'est-à-dire en dessous de 2 hectares dans le département. Je ne sais pas combien on est rendu aujourd'hui, on est entre 30, je dirais dire entre 30 et 40, peut-être que je pousse un peu, mais dans ces eaux-là, je crois, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de... depuis une dizaine d'années. Et cette tendance-là, elle est nationale. C'est-à-dire que nous, en région, voilà, c'est ça partout. Ça veut dire que c'est quand même des formats qui sont demandés par notre société. Il y a plein de gens aussi qui ont des projets d'installation, justement parce que voilà, il y a un retour aux valeurs essentielles et au retour un peu aux fondamentaux. Donc, c'est génial pour tout le monde, hein. Que ce soit côté production ou côté consommation. Seulement, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'installations qui se créent dans une relative précarité, parce qu'il y a des tout petits systèmes. Alors, précarité voulue ou subie, hein, là-dessus, chacun fait son chemin. Mais en tous les cas, si demain on souhaite, en effet, si chaque ville veut se doter de plusieurs jardins maraîchers, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'installations qui sont aidées aussi par les municipalités, il y a plein d'exemples en ce moment, c'est-à-dire aussi que tout le monde n'a pas non plus les mêmes chances ou les mêmes aides pour s'installer, ça fait partie aussi du pack et des différenciations qu'il peut y avoir dans nos activités maraîchères. Mais dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut leur donner de vrais moyens pour perdurer et pour pérenniser leur système. Voilà, l'installation, c'est une chose, mais il faut pouvoir durer, faut pouvoir pérenniser les systèmes.
Et je rajouterais juste à ce qu'a dit Stéphane, je pense que tu ne l'as pas précisé, mais c'est vrai que dans les installations en maraîchage, donc c'est la principale installation qu'on a dans le département, même en région, et il me semble que c'est un peu partout en France, c'est qu'aussi, c'est beaucoup de reconversion. Donc, des personnes qui ne sont pas forcément formées au niveau agricole, qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui n'ont pas la famille d'agriculteurs à côté, qui n'ont pas forcément même leur famille tout court parce qu'ils ont bougé, etc. Donc, ça renforce cette précarité, justement. Il y a moins d'aide, etc. Donc, c'est plus compliqué pour eux.
En même temps, ils peuvent tomber dans plein d'écueils, mais en même temps, côté innovant, c'est assez génial. Ces reconversions, moi, c'est pas, je suis pas né le cul sur un tracteur, hein, c'était déjà une reconversion, hein, que j'ai fait il y a 20 ans. J'ai pas repris la boutique à papa. Et je trouve ça génial que tous ces néo-ruraux, en effet, qui déboulent là, parce qu'ils ont plein d'idées nouvelles, et c'est top, quoi. Ça, ils réinventent une forme d'agriculture. Tout n'est pas bon à prendre, mais il y a des trucs qui sont super sympas, quoi.
Justement, on pourra revenir un peu plus tard. Tu pourras peut-être nous raconter ton expérience d'installation, savoir si tu as converti les terres aussi à l'agriculture biologique, etc. On en y reviendra plus tard. On arrive presque au terme de l'émission, mais avant de se quitter, est-ce qu'on peut juste dire quelques mots du Gablec, à la fois de ton côté, Manon, toi, le rôle du Gablec un petit peu, et peut-être à quoi ça sert pour les agriculteurs d'adhérer au Gablec. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu le Gablec, Manon, s'il te plaît?
Alors, le Gablec, ça a été créé en 77 par un groupe d'agriculteurs bio, hein, pareil, dans cette volonté de défense d'intérêt des producteurs bio, de permettre de former les producteurs, de sensibiliser à la bio. Donc, c'est des choses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, la sensibilisation à la bio, donc dans l'éducation, que ce soit pour les écoles, dans les formations. On va aussi accompagner les producteurs dans leur système. Et là, c'est vrai que sur le conseil, il s'est reporté au niveau régional, justement, pour mutualiser des compétences. Que chaque GAB, à l'origine, n'avait pas forcément d'animateur. C'est assez récent, hein, ce développement, en tout cas dans la région centre. Aujourd'hui, on est 1 à 2, voire 3 dans les départements, ce qui fait qu'on ne peut pas traiter tous les sujets. Sur l'accompagnement, par exemple, au Gablec, ça va être plutôt sur les grandes cultures, au niveau technique, parce que j'ai une collègue sur les grandes cultures. Le maraîchage, ça va être au niveau du biocentre. Après, une autre vocation du Gablec, ça va être de mettre en réseau aussi les producteurs bio, donc c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer, échanger, donc via des groupes de travail sur des thèmes plus ou moins transversaux. Ce que disait Stéphane, là sur le maraîchage, on a des groupes en lien avec Biocentre, et après ça peut être des groupes plus transversaux sur l'alimentation, les plans alimentaires territoriaux, etc. La vocation du Gablec, ça va être de fédérer aussi ces producteurs pour qu'ils puissent, en fait, en échangeant et se rencontrant, monter en compétences, développer de l'entraide.
D'accord. Et toi, ta fonction au sein du Gablec?
Alors, j'ai une fonction assez générale, donc de gestion de l'association, donc soit la vie associative, la gestion budget, etc., l'animation du groupe, donc sur différents groupes de travail, donc par exemple, co-animer avec Eva les groupes de maraîchage. Ça peut être aussi tout ce qui est plan alimentaire territorial qu'on suit aussi de près, donc pour être un peu en interface aussi entre les agriculteurs et les collectivités pour essayer de jouer dessus. On a aussi au sein des GAB une mission de développement de la bio au sein des cantines, donc en RHD, restauration hors domicile. Donc voilà, on a tout un tas de missions très très diversifiées. On essaie de spécialiser de plus en plus les postes parce que c'est compliqué de faire 1000 choses à la fois. Mais voilà en gros ce que je fais.
Et actuellement, vous avez combien d'adhérents, combien d'agriculteurs bio adhérents au Gablec?
Donc là, on a 100 adhérents et ça représente la moitié des producteurs bio du Loir-et-Cher.
D'accord.
Voilà, ce qui est quand même pas trop mal encore. C'est vrai que plus on a d'agriculteurs bio et plus c'est compliqué d'avoir un taux d'adhésion important puisqu'on a on peut avoir des valeurs et des intérêts qui s'éloignent. Donc, aujourd'hui, la moitié, c'est quand même bien justement pour fédérer toutes ces personnes et puis les accompagner au mieux.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment adhérer au Gablec? Est-ce qu'il y a des prérequis? Je suppose qu'il faut être agriculteur, avoir une exploitation.
Alors, on peut être agriculteur, mais on peut aussi être porteur de projet, donc c'est-à-dire avoir un projet d'installation d'agriculture. Donc ça, les porteurs de projet, l'adhésion, elle est minimum, hein, c'est 30 euros. Et ensuite, on peut être en conversion, on peut être aussi à la retraite, voilà. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt des agriculteurs, mais il y a pas mal de porteurs de projets aussi qui sont au Gablec pour être dans le réseau et pouvoir bénéficier des connaissances du réseau. Donc voilà, s'il y a des nouveaux débouchés qui se créent, parce que c'est vrai qu'on est un peu l'interface entre les producteurs adhérents et puis tous les autres acteurs de l'agriculture, que ce soit la communication, les débouchés, etc. Un rôle qu'on a aussi d'interface, c'est donc on est beaucoup en lien avec le GRAB à Biocentre et puis la FNAB, voilà, via le GRAB. Et en fait, le GAB, ça permet aussi de fédérer et de faire remonter des besoins, des difficultés des agriculteurs, que ça peut être vis-à-vis de la réglementation bio, vis-à-vis des problématiques sociétales, donc ce que disait Stéphane, aujourd'hui des problématiques d'absence d'aide sur la main-d'œuvre, de la concurrence entre des filières, etc. Donc on a aussi cette vocation de défendre l'intérêt général de la bio et des producteurs bio du terrain.
Oui, d'accord. Ce qu'on pourrait définir presque comme un lobby citoyen aussi, quelque part. Ouais. En tout cas, un mouvement de terrain qui est là pour promouvoir une cause.
Oui, c'est ça.
Quel est l'intérêt pour toi, Stéphane, en tant que maraîcher, d'être adhérent au Gablec?
De toute façon, c'est rejoindre déjà le collectif de notre département sur cette question-là. Voilà. Même si, bon, nous, ce qui se passe, c'est qu'au niveau technique, c'est ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau technique, c'est à travers le GRAB. C'est-à-dire, le GRAB, c'est la Fédération des GAB départementaux, donc c'est l'instance régionale, en effet, des GAB. Et il se trouve qu'au sein du GRAB, du coup, nous, il y a deux techniciens qui s'occupent du volet maraîchage. Donc la partie technique, aujourd'hui, elle n'est pas dispensée par le Gablec. Donc, moi, je suis, en effet, ce qui se fait au Gablec sur les sujets plus transversaux, hein, la visibilité, la communication. Des fois, les jeunes ou les nouveaux qui souhaitent les premiers contacts, là, qui sont faits pour ceux qui veulent découvrir l'agriculture bio, et qu'on a des fois quelques visites qui sont faites à la ferme. Voilà. Sinon, c'est déterminant de toute façon d'être adhérent au Gablec, justement, parce que si j'étais pas au Gablec, je serais pas au GRAB. C'est-à-dire que c'est grâce au Gablec que je fais partie du GRAB. Hein. Donc voilà, essayer de faire vivre ces collectifs sur notre territoire, c'est important, ça. C'est important à se connaître.
Eh ben, je vous remercie pour cette première partie d'émission. Je vous propose qu'on se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci, au revoir.
Merci. À une prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Encore merci à Stefano et Manon Cassagne pour cet échange. Pour information, cette émission fait partie d'un dossier en 4 parties sur l'agriculture biologique qui seront diffusées tout au long du mois de novembre. La semaine prochaine, on continue à échanger avec mes invités pour parler de techniques agricoles. Les deux derniers épisodes, quant à eux, nous permettront de revenir plus en profondeur sur la question de l'industrialisation de la bio, avec l'agronome et ethnologue Jacques Capla. Vous pouvez déjà retrouver cet échange en podcast sur le site de la radio studiosf.fr à la page de l'émission La Chose Commune. On se dit donc à mardi prochain, et d'ici là, on continue d'agir pour La Chose Commune.